Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama. Okapi.
Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute du magazine Okapi Service de ce mardi 17 juillet 2012. Au programme, comment promouvoir la création d'emplois chez les jeunes. On en parle tout à l'heure avec nos invités. Nous avons Patricia Ndolantima, entrepreneur, et François-Xavier Kabimba, qui est également entrepreneur, économiste. Bonjour François.
Bonjour Jody.
Et bonjour Patricia.
Bonjour Jody.
Pour participer, composez le 081 890 63 94. Vous pouvez également nous écrire à service@radiookapi.net, chers internautes. Vous pouvez visiter aussi la page Facebook du magazine Okapi et Service. Willem Lungamba est à la technique. Nounou Ngoy réalise cette émission. Elle est assistée des contests, voilà, et Marcel Ngombo à la coordination. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama sous la supervision de Nicole Ngaka. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Bien, en République démocratique du Congo, bon nombre d'analystes dressent un tableau sombre du secteur de l'emploi, notamment chez les jeunes. Ils sont nombreux au chômage, d'autres vivent dans l'oisivité, faute de travail. Pour survivre, certains ont pu se lancer dans l'informel. D'après les spécialistes, il est possible de devenir créateur d'entreprise au lieu de vouloir travailler toujours comme salarié. Alors comment promouvoir l'esprit d'entreprise chez les jeunes congolais? Nous recevons deux jeunes congolais qui ont participé dernièrement au sommet des jeunes leaders africains aux États-Unis. Nous avons Patricia Ndolantima, bonjour.
Bonjour Jody.
Voilà, vous êtes entrepreneur et chargé de marketing. Voilà, vous avez évolué dans les domaines de marketing pendant plusieurs années et nous recevons également François-Xavier Kabimba, économiste. Bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Alors je commence par Patricia. Dites-nous, comment aujourd'hui arriver à promouvoir l'emploi, la création d'emplois chez les jeunes, l'esprit d'entreprise chez les jeunes?
Vous dites la question de savoir comment?
Oui, promouvoir l'esprit d'entreprise chez les jeunes.
La première chose, il faudrait être créative. Okay. Et puis, sur base de ça, une fois qu'on a une idée, parce que qu'est-ce qu'on vend aux gens, ce sont les idées. Mmh. Et une fois qu'on vend, on a l'idée, le reste, ça suit. Et donc, pour prendre mon exemple, lorsque j'ai commencé, je travaillais pratiquement pendant 10 ans pour les structures au Sénégal, un peu dans plusieurs pays africains. Et lorsque je suis rentrée, j'ai créé une structure CommuniCard qui était communiquée via la carte postale gratuite. Et en même temps, j'ai contacté l'agence pour laquelle je travaillais au Sénégal et même en Afrique du Sud. Je leur ai demandé une affiliation. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Mais en même temps, j'ai eu à faire des activités. J'ai eu mon atelier de couture, j'avais 17 ans.
Atelier de couture.
Oui. Mmh. Je faisais ma détenue pour les étudiantes de l'UPC avant que je puisse, quand j'ai commencé l'université. Mais entre-temps, même en étant jeune, à 15-16 ans, lorsque j'allais à l'école, je faisais des gaufres, je faisais des cakes. Et quand je voyageais, j'achetais plein des petits cadeaux que je venais revendre auprès des jeunes. Donc, au fait...
Mais c'est pas tout le monde qui a cette façon de voir les choses ou de faire les choses.
Oui, justement, l'Africain devrait, hormis le fait d'aller à l'école, il faudra avoir l'esprit créatif. Parce que c'est sur base de la créativité qu'on devient entrepreneur. Parce que si tu n'as pas la créativité, tu pourras toujours te focaliser sur « bon, je vais à l'école, je reviens ». Mais déjà, en allant à l'école, pouvoir créer un petit job qui te permet à toi-même de subvenir à tes besoins. Parce que pour moi, c'était pas une question de nécessité, mais une question de passion. Je suis une personne qui est passionnée par tout ce que je fais. Mmh. Et rester oisif, cela ne me ressemble pas. Donc, je voulais toujours
créer... Donc, vous avez commencé par vendre des gaufres ?
Oui. Oui, que je faisais toute seule. Mmh. Et puis, mais vraiment parce que j'aimais ça, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Mmh. Et puis, par la suite, à 17 ans, j'ai eu ma tante qui m'a offert une machine à coudre, parce que je dessinais. Donc, j'avais même une petite marque. Et en dessinant, elle m'a dit, mais tiens, pourquoi tu n'ouvrirais pas un atelier de couture? Je me disais, bon, j'avais pas vraiment le temps, mais je me suis lancée. Mmh. Et effectivement, les gens, j'ai commencé à habiller, que ce soit des grandes dames du pays, les gens venaient pour faire leurs vêtements. Et voilà. Puis finalement, c'est parti comme ça. On m'a donné, j'ai créé ma marque qui s'appelait Bisoli. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, les gens m'appellent Bisoli.
Bisoli.
Oui, ça vient de la marque des vêtements que j'avais créée.
Donc, on retient la première chose, il faut des idées.
La créativité.
La créativité, il faut avoir la créativité.
Et l'innovation aussi.
L'innovation. Oui. Alors, François, qu'est-ce qu'il faut faire pour promouvoir aujourd'hui la création d'emplois chez les jeunes, par les jeunes eux-mêmes?
Je crois que la première chose, c'est qu'il faut apprendre aux jeunes à regarder autrement la vie. Plusieurs jeunes gens, aujourd'hui, quand ils vont à l'université ou à l'école, mmh. ils espèrent que lorsqu'ils seront sortis de l'université, ils trouveront du travail.
Ils vont aller déposer les « j'ai l'honneur » demande d'emploi.
Oui. Exactement. Mais il faudrait aller au-delà de ça. Il faut voir déjà... aujourd'hui, c'est ce qu'on peut faire pour être indépendant financièrement. Et ce que j'aime par rapport à l'expérience de Patricia, c'est que on peut commencer petit, mais ce n'est pas pour rester petit. On peut avoir une petite idée. Le plus important, ce n'est pas le fait d'avoir une petite idée. Le plus important, c'est comment on arrive à mettre en œuvre cette idée pour que cette idée devienne génératrice de revenus. Et dès que cette culture de l'entrepreneuriat, à même un niveau très bas, entre dans la vie d'une personne, elle va se développer avec le temps.
Mais certains jeunes disent, mais comment je peux avoir des idées, mais tant que je n'ai pas d'argent, je ne peux pas m'élancer.
Je vous donne un exemple. Je suis à l'université, j'ai fait des cours de gestion de projet. Il y a des gens qui ont eu les cours de gestion de projet et c'est resté des notes. Moi, j'ai eu un cours de gestion de projet. Je l'ai mis en œuvre dans des ONG. Mmh. Et à partir de ces cours de gestion de projet que j'ai mis en œuvre dans des ONG, j'ai aidé des ONG à écrire des projets, à mettre en exécution ces projets et même à faire les évaluations des projets de ces projets. Oui. Et j'ai quand même gagné quelque chose en tant que volontaire. Et cette expérience m'a permis, jusqu'aujourd'hui, d'écrire des projets, de mettre en exécution ces projets, de les évaluer. Mmh. Et c'est comme cela que l'on devient entrepreneur. Il faut commencer quelque part. Ça peut être petit, mais toute personne qui commence ne finira pas petite.
Voilà. Nous avons un auditeur en ligne, François, il nous appelle des Kananga, dans la province du Kasaï. Stéphane, qui nous appelle depuis Kananga, dans la province du Kasaï occidental. Stéphane, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question?
Oui, ma question est la suivante. Comment je peux créer un emploi tant que je n'ai pas un moyen financier, par exemple, je suis un étudiant, je vais à peine de terminer, alors je n'ai pas quelque chose qui peut me permettre à créer un emploi. Comment les invités peuvent m'aider avec?
Bien. Patricia va répondre.
Oui. Je pense que je vais reprendre ce que François a dit. L'argent ne doit pas être le moyen qui nous empêche de pouvoir réaliser nos rêves. Il faut commencer quelque part. Votre question, c'est de savoir comment vous allez faire. Vous allez à l'université, mais je pense que vous savez sûrement, vous avez de la créativité dans votre, en vous, qui doit faire que vous devez voir de quelle manière. Vous pouvez, par exemple, commencer en allant donner des cours à des jeunes, à des parents qui n'ont pas le temps de pouvoir aider leurs enfants à répéter. Donc, vous pouvez déjà commencer en tant qu'étudiant. Voilà, en tant qu'étudiant à l'université, cela voudrait dire que vous êtes capable de pouvoir aller aider un jeune qui ne sait pas faire ses devoirs seul. Et peut-être qu'au début, on va vous payer 50 ou 100 dollars, mais ces 50 et 100 dollars peuvent vous permettre de commencer une petite activité. Donc dire, voilà, je suis à l'université, comment je peux faire, mais commencer par voir qu'est-ce que vous faites le mieux. Quelle est cette potentialité que vous avez en vous, que tout le monde vous dit, parce que vous avez sûrement quelque chose qui est en vous, où les gens disent, mais vous faites bien tel travail. Essayez maintenant d'utiliser ce don que vous avez et le transformer en quelque chose qui vous permettra de gagner un fonds. Et sur base de ça, vous regardez qu'est-ce que vous aimez le plus faire.
Son problème, c'est l'argent. Comment on voit, non, est-ce mais qu'il y aura des moyens?
Non, mais justement, l'argent ne doit pas être le moyen qui t'empêche de réaliser ce que tu es. Même si vous n'avez pas l'argent, moi je vous ai dit que j'ai commencé, je n'avais pas l'argent avec moi. Mais c'est pour dire que le fait qu'il soit un étudiant, ça veut dire qu'il a des capacités. Capacités, il peut aller frapper en disant voilà, je peux faire devenir répétiteur. Déjà, c'est de l'argent. Parce que le temps que vous donnez, que vous accordez à aider cet enfant à devenir meilleur, c'est un temps qui est monnayé. Donc il va être payé et sur base de ça, même avec 50 dollars, il peut acheter des petits trucs, revendre. Et puis sur base de ça, il se constitue un capital.
Voilà. Un autre auditeur en ligne, Jado, il nous appelle des Loubéro, dans la province du Nord Kivu. Jado, bonjour.
Bonjour, je dis cassamment, bonjour les invités de ce magazine au Capi Service. En fait, je suis en train de suivre très bien les interventions de ces invités.
Oui.
Mais je voudrais savoir comment ils peuvent répondre à cette maxime qui dit que l'argent appelle l'argent et qu'on ne peut prêter qu'aux riches. Ça veut dire quoi? Vous venez de finir à peine vos études secondaires ou les études universitaires, vous n'avez pas d'argent et vous avez fait des études où il faut peut-être embaucher dans un établissement public. Vous avez fait par exemple les droits sans avoir prêté le serment, vous ne pouvez pas ouvrir les cabinets. Comment concrètement on peut faire pour juste avoir une activité? Il faut faire l'entrepreneuriat privé. Comment on peut le faire sans argent?
Merci. Merci beaucoup pour votre question, Jado. Nous avons également Moulimbi de Kisangani. Bonjour.
Oui, allô?
Oui, Moulimbi, on vous écoute.
Ok, ma préoccupation est celle-ci.
Oui.
J'ai terminé les études humanitaires, j'ai obtenu mon diplôme, je n'ai pas eu l'emploi. J'ai créé un emploi et maintenant il y a des taxes qui me poussent peut-être à pouvoir encore arrêter le travail. Alors quel conseil pourriez-vous me donner pour que je puisse continuer?
Alors,
dans la ville de Kisangani, quand on crée quand même quelque chose pour se démener, tel que des cabines électroniques ou des recharges avec des unités, on crée peut-être une petite espace pour peut-être couvrir cet chômage, mais il y a des taxes qui nous arrivent. Alors, quel conseil peut-être pourriez-vous nous donner pour que nous puissions nous en sortir dans ce cas?
Merci. François va répondre et puis Patricia. François répond à Jado et Patricia à Moulimbi. Voilà.
Oui, Jado, l'argent appelle l'argent, ne prête qu'aux riches. J'aimerais que chaque jeune Congolais puisse savoir que au-delà de l'argent liquide qu'on peut ne pas avoir, ses idées valent certainement de l'argent. Les études que l'on a faites, ce n'est pas du temps que nous avons perdu, c'est un investissement en notre capital humain. Et cet investissement peut être transformé en argent. Je donne un exemple. En travaillant pour le compte de cette ONG, il y a des jeunes gens que nous avons encadrés, quelqu'un qui n'avait ni père ni mère, orphelin dans la rue, mais qui, pour finir ses études, a dû porter des cartons dans des magasins,
Et après avoir porté des cartons dans les magasins, il a finalement eu de l'argent pour faire une petite cabine. Il a commencé à faire l'échange de monnaie et finalement aujourd'hui, il a fini ses études. Mais déjà, il y a un esprit de gestion qui l'habite et à partir de cet esprit, il sait mieux gérer le capital qu'il a. Vous pouvez commencer par quelque chose qui est petit, mais vous devez l'opérer certainement une capacité à gérer qui vous permettra de développer votre activité.
Lorsque là, il faut des formations.
Exactement. Il y a des ONG qui le font. Et ce que nous avons reçu à l'école ou à l'université n'est pas rien non plus, parce que moi je peux dire que ce que j'ai appris et à l'école et à l'université m'a énormément contribué à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc je crois que au-delà de l'argent liquide que vous n'avez pas, vous avez certainement une idée qui peut valoir de l'argent. Vous pouvez certainement commencer par quelque chose, même qui paraît dérisoire ou ridicule aux yeux des hommes, mais lorsque vous avez un objectif à long terme, commencez là où vous pouvez commencer. C'est le plus important.
Voilà, c'est le plus important. Avant de répondre à Moulimbi, nous allons accueillir d'autres auditeurs. Amos nous appelle de Goma et Robert de Kananga. Amos, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, au fait, je vous remercie pour avoir reçu mon appel. En fait, je dois d'abord remercier les parents de la sœur là, la sœur présente là-bas et l'autre frère, parce que ce sont d'abord les parents qui sont les premiers d'abord à initier les enfants dès le bas âge à faire des petites activités. Mais malheureusement, il y a des parents qui ne font vraiment pas allusion à cela. Ils pensent que les enfants, ils vont rester les enfants éternels. Parce que moi-même, mes parents, ils m'ont vraiment aidé à commencer avec des petites activités. Et maintenant, aujourd'hui, il y a une petite entreprise que j'ai commencée. Et malheureusement, notre l'État aussi, il a un problème parce que quand il y a des petites entreprises qui commencent, l'État ne peut pas s'engager à ce que ces petites entreprises puissent vraiment évoluer. Mais par contre, l'État est là maintenant pour exploiter ces petites entreprises. Vous verrez maintenant des taxes, beaucoup de services, alors que ces services-là devraient toujours venir pour voir ce que les entreprises a besoin, afin que l'État puisse vraiment intervenir pour que les entreprises avancent. Mais malheureusement, l'État est là maintenant pour fixer maintenant des petits revenus de ces entreprises, afin que ces entreprises n'avancent pas. Donc je pense que l'État doit vraiment beaucoup intervenir, afin que les jeunes qui commencent des activités puissent intervenir. Il y a un autre problème. Il y a un autre problème quand il s'agit de... Quand vous demandez un fonds, peut-être quelque part. Mais quand vous avez demandé un fonds, vous êtes un jeune qui commence maintenant une activité, on doit vous utiliser maintenant une parcelle, d'avoir un document de parcelle. Mais vous qui venez juste à l'école, vous venez de l'école secondaire de l'université, vous voulez commencer une entreprise. Comment vous aurez une parcelle alors que vous n'avez même pas travaillé? Donc oui, il faut que l'État aussi intervienne dans ces affaires afin que vraiment tout le monde puisse avoir l'occasion de commencer son entreprise et de la faire évoluer. Parce que moi-même, j'ai commencé l'entreprise il y a presque une année. Donc, je demande vraiment comment évoluer parce que vraiment, il n'y a pas quelqu'un qui peut me prêter une main forte afin que je puisse encadrer aussi d'autres jeunes dans cette activité pour que...
Merci pour cette intervention. On va donner la parole à Robert qui est à Kananga. Bonjour Robert. Bonjour Robert. Désolé, il n'est plus... il est en ligne. Salut Robert, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Merci beaucoup. J'étais en train de suivre notre invité qui parlait sur la gestion des projets. Dans la gestion des projets, il y a trois problèmes. Il y a le problème des moyens humains, moyens matériels et moyens financiers. Maintenant, je voudrais parler concernant mon cas. Moi, je suis étudiant.
Oui.
J'ai terminé cette année, mais chaque fois, je voudrais faire l'élevage, mais j'ai un problème de l'espace. Parce que je suis en train de loger dans une petite maison qui ne permet pas de faire l'élevage. Maintenant, avec ce que les amis venaient de parler, les invités, pardon, ce qu'ils venaient de parler. Ah bon, l'environnement, est-ce que si quelqu'un n'a pas l'environnement qui le permet de créer un emploi, comme je viens d'évoquer mon cas sur l'élevage, est-ce que cela peut le permettre d'entreprendre les activités? C'est ça ma question.
Merci Robert. Un autre auditeur, Mavé, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour à tous nos invités ainsi qu'à tous nos auditeurs qui nous suivent en ce moment.
On vous écoute, Mavé.
Merci. Je voudrais adresser une question à nos invités qui sont avec vous sur le plateau.
Ok.
Est-ce qu'ils peuvent nous dégager une exacte différence existant entre la gestion managériale et l'entrepreneuriat? Et comment peut-on s'en servir s'il y a une exacte différence? Comment un entrepreneur peut s'en parer ou soit s'utiliser ou soit s'apprendre de ces éléments? Je vous remercie. Voilà.
Merci Mavé. Voilà, nous avons beaucoup de questions. On commence par Moulimbi de Kisangani. Patricia, il dit il a une cabine téléphonique, mais le problème c'est qu'ils se sont asphyxiés par les taxes, les services de l'État qui passent à tout moment pour les taxes. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
À ce niveau, je pense que il faudrait voir les choses différemment. Il faudrait peut-être que notre gouvernement puisse essayer de voir comment taxer tous ceux qui travaillent dans des secteurs informels, pour pouvoir justement les aider. Parce que l'objectif de l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir créer des emplois, okay, aider les gens à devenir indépendants et surtout à créer des emplois. Mmh. Et que si... Personnellement, en tant qu'individu qui aussi paye des taxes, je n'ai pas une réponse quelconque en dire qu'est-ce que le gouvernement doit faire, mais je pense que le gouvernement, à son niveau, devrait essayer de créer une loi qui protège également ceux qui se lancent, tous ces jeunes qui ont des idées pour se lancer. Parce que la chose la plus difficile de se lancer, se dire voilà, on est prêt, on a des idées, on a même les moyens, mais si le peu de moyens que nous avions doivent aller à payer les impôts, finalement, ces personnes, ça ne leur donne pas même l'envie de pouvoir se lancer.
Donc l'État doit encourager les jeunes.
L'État doit, la première chose, c'est que l'État doit encourager les jeunes et les aider. Surtout,
créer des conditions favorables.
Absolument, des conditions favorables qui sont différentes de tous les secteurs formels qui, eux, ils ont quand même des assises, ils ont des statuts qui leur permettent de pouvoir même octroyer des crédits au niveau des banques qui sont différents du commun mortel qui vient de commencer un petit business. On devrait beaucoup plus les aider à pouvoir avoir un soutien de la part du gouvernement.
Voilà, il y a Laetitia qui nous appelle de Lubumbashi. Bonjour Laetitia.
Bonjour, je suis Laetitia Chilumba. Je suis étudiante à la faculté de lettres à l'université de Lubumbashi. J'aimerais dire ceci. Je pense pour aider les jeunes à mieux comprendre l'utilité du travail et surtout pour les études faites. Oui. On doit organiser au moins deux fois par an des conférences dans des milieux universitaires où on instruira des chefs des entreprises de la place qui vont nous aider un peu à comprendre la réalité de business dans la gestion financière. J'aimerais poser ma question sur... la gestion elle-même.
Oui, allez-y.
Madame nous a parlé d'entreprendre. Il faut que pour réussir son objectif, il faut commencer par des petites choses. Est-ce que ces petites choses-là, il faut épargner, plus épargner et viser loin et abandonner même soit les études qu'on a fait par exemple à l'université ou soit concilier les deux, aller de l'avant et se dire non je dois d'abord poursuivre les études et puis faire les business après.
D'accord. Merci Laetitia. Voilà, il y a plusieurs questions. Amos Legoma, Xavier, il nous dit les parents sont les premiers à initier leurs enfants à créer des entreprises, mais ils déplorent le fait que nos parents ici ne les font pas. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire, Xavier?
Je crois qu'il y a des parents qui nous suivent. C'est pour eux le moment aujourd'hui d'apprendre à leurs enfants à avoir un esprit créatif.
Et mais est-ce que dans nos écoles, universités, est-ce qu'on en parle?
Au-delà des parents, il y a, c'est vrai, les endroits où nous allons pour apprendre, ça peut être l'école ou l'université. Je crois qu'il faut toujours qu'il y ait des programmes tels que ceux-là. Et même dans les entreprises, il faudrait apprendre aux gens à être créatif et à avoir cet esprit d'indépendance sur le plan financier. Je crois que finalement c'est une question qui touche à toute la nation. L'État doit s'en charger. Au niveau des cellules de base de la société, de la famille, il faudrait aussi qu'on puisse pousser les individus à la quête du mieux-être à partir de leur effort. Et je crois que si on apprend déjà à un enfant à fournir des efforts pour réussir, pour lui, l'entrepreneuriat sera quelque chose de naturel. Il pourra avancer avec beaucoup plus de facilité. Mmh. J'approuve tout à fait ce que dit Amos de Goma. Les parents ont un grand rôle à jouer, mais aussi l'école et l'État.
Bien. Avant de répondre aux autres, il y a un autre auditeur qui est en ligne. Théodore, il nous appelle des Mbujimaï. Bonjour Théodore.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, j'avais des petites préoccupations. Je voulais poser à notre invité. Mmh. Vous savez, ici chez nous en Mbujimaï, il y a eu des entreprises, il y en a eu beaucoup. Mais avec la disparition des diamants, les jeunes gens ont créé des petites entreprises qu'on appelle PME, les petites et moyennes entreprises.
Oui.
Et la loi est là en train de les accompagner. La loi qui dit qu'ils doivent payer les forfaits seulement. Mais à leur grande surprise, à la place des forfaits, les services des impôts arrivent avec la vérification et contrôle et supplément d'impôts. Est-ce que notre invité peut me dire si le PME peut être vérifié et contrôlé et supplier les impôts? Et puis, deuxième question, indignation de la part de Pénin, il y a les détaillants et les grossistes. Les expatriés qui sont ici chez nous en Mbujimaï, comment ils arrivent, État, inventaire, grossiste, nous allons chez eux, nous achetons en gros pour vendre en détail, ils restent encore chez eux là-bas vendre en détail, alors ça nous bloque, nous ne savons pas avancer. Quand nous écrivons des doléances auprès des autorités, rien n'est fait jusque-là. Au moment où je vous parle, ce sont les bagages, les gens sont dans les camions vers Kinshasa et vers Katanga. Voilà, peut-être qu'ils me disent, est-ce que dans ce genre de choses, comment on peut s'en sortir?
Bien, merci Théodore. Bien, Patricia, il y a la question de Robert de Kananga qui dit, il veut faire l'élevage, mais il n'a pas un espace pour arriver à le faire. Il y a un problème d'environnement. Robert nous a appelé tout à l'heure de Kananga. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Il se sent un peu bloqué.
Oui, mais une fois de plus, comme on l'a dit, pour faire l'entrepreneuriat, il y a l'idée, mais il y a aussi, il faudrait... Parce qu'il a dit dans sa question, il a de l'espace et qu'il n'en a pas assez. Parce qu'il a commencé, il a dit qu'il a commencé quelque part. Mmh. Mais je pense que quand il y a, dans l'entrepreneuriat, il y a aussi la gestion. Dans la gestion, s'il a commencé, quelque part, cela voudrait dire qu'il a eu une entrée. Et que quand tu as des objectifs dans ta vie et que tu voudrais aller aussi loin, tu dois commencer avec le peu que tu as. Il faut pas non plus voir directement commencer, vouloir en avoir beaucoup aussi longtemps que tu n'as pas encore terminé peut-être à sécuriser le peu que tu as. Ma question par rapport à Robert, ce serait d'abord de savoir ce qu'il a commencé, le peu, parce qu'il a dit qu'il a commencé quelque chose, il a commencé. Est-ce qu'il a gagné? Et si au fur et à mesure, parce que comment on commence avec une vision? Tu commences tout petit avec une vision, au fur et à mesure que tu es en train de d'élargir ta vision, de grandir, tu augmentes tes frais. Et que pour ma part, s'il a commencé et qu'il n'a pas encore atteint les objectifs qui s'est fixé au début, il ne peut pas déjà penser à acquérir un plus grand champ aussi longtemps qu'il n'a pas encore atteint du moins la moitié de trucs. C'est aussi une question, comme on le dirait, une question de vision et une question d'aller étape par étape. Et que celui, comme on dit, en force de vouloir trop gagner, finalement finit par tout perdre. Je pense que l'objectif, c'est de sécuriser le peu qu'il a, de bien pouvoir. Une fois qu'il aura sécurisé, en ce moment, il pourra envisager de s'agrandir au fur et à mesure, mais il doit partir selon ses moyens à lui. Parce que sinon, à la fin, il va s'arrêter, il va se dire, voilà, je tombe en faillite, je commençais l'élevage, je n'ai pas pu aller aussi loin. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup dépensé, il a dépensé par rapport aux besoins même de son élevage.
Voilà, François-Xavier m'avait nous appelé des Kananga pour demander quelle est la différence entre la gestion managériale et l'esprit d'entreprise.
Je crois que le meilleur exemple, c'est celui que Robert de Kananga venait de donner. Robert a été entrepreneur en commençant un élevage et il a tellement bien géré cet élevage que maintenant il se retrouve à court d'espace. Il a eu une idée, il a commencé quelque chose et il a bien géré. Il a été gestionnaire en ce moment-là et l'espace et son activité s'est développée. Il se retrouve face à un obstacle maintenant, c'est qu'il n'y a plus suffisamment d'espace. Il faudrait encore qu'il utilise son cerveau d'entrepreneur. Et pour ma part, ce que j'aurais fait, c'est aussi quelque chose que j'ai vu avec les Américains. Ils arrivent à ouvrir leur capital à d'autres personnes. On a commencé une activité qui s'est développée, mais nous sommes butés. Il y a certainement quelqu'un qui a un espace, mais qui ne sait quoi faire de cet espace. Mmh. Voilà quelqu'un qui peut devenir soit son bailleur, soit alors un partenaire dans son entreprise. Donc, un entrepreneur, il a des idées, il peut se lancer, mais une fois qu'on s'est lancé, il faut qu'on arrive à gérer l'activité. Et ce qui a tué beaucoup de personnes, ce n'est pas le fait qu'ils n'aient pas essayé, qu'ils n'aient pas commencé, mais c'est le fait qu'ils aient mal géré ce qu'ils avaient commencé. Mmh. Nous ne construisons pas des entreprises pour le court terme, mais bâtissons-les pour le long terme.
Voilà. Daniel est en ligne depuis Lubumbashi. Bonjour, Daniel.
Bonjour.
On vous écoute.
Merci beaucoup. Je salue les amis qui sont en train de partager les expériences. Oui. Je suis tout à fait d'accord un peu avec eux. Mais moi, je crois que le problème de l'emploi des jeunes, je peux catégoriser ça à trois niveaux. Premièrement, l'État doit créer un fonds de promotion pour l'entrepreneuriat des jeunes. Ce cadre qui sera un cadre de concertation qui pourra mettre ensemble les idées des différents jeunes pour les recadrer dans les domaines spécifiques et de permettre à ces jeunes d'accéder aux moyens afin de concrétiser leur vision. Deuxièmement, je crois que nos universités aussi doivent amener des réformes pour permettre à ce que on arrive à changer notre système d'enseignement qui est beaucoup plus théorique, où on forme des chercheurs, mais au sorti, ces gens-là doivent être des professionnels. Donc, les programmes d'enseignement ne cadrent pas, ça ne permet pas aux jeunes de s'asseoir dans le milieu professionnel pour créer les emplois. Et troisièmement, l'État doit alléger aux jeunes le frais qu'on demande dans des banques ou l'accès au crédit. Parce que les jeunes ont des idées, mais les jeunes ne savent pas accéder au crédit parce qu'ils n'ont pas de garantie à donner. Je crois que si on peut essayer de réfléchir de cette façon-là, je crois qu'on pourra arriver à créer des systèmes, à créer des grands programmes qui pourront donner aux jeunes la possibilité d'avoir facilement l'emploi au Congo.
Merci Daniel pour ces propositions. Alors Laetitia de Lubumbashi, elle a posé la question de savoir est-ce qu'on peut organiser des conférences comme ça pour susciter l'esprit d'entreprise deux fois dans des conférences comme ça dans les universités. Et il y a une autre question, il dit, Patricia, vous avez tout à l'heure qu'il faut commencer par des petites choses. Alors comment concilier les études et un petit business à côté? Qu'est-ce que vous pouvez dire à Laetitia?
La première question de Laetitia sur le fait d'organiser des conférences. Déjà, depuis notre retour, nous avions prévu d'organiser la semaine du leadership qui se tiendra du 7 au 21 septembre. L'objectif, justement, c'est de pouvoir former les jeunes sur le plan leadership. Parce qu'il y a deux choses que beaucoup les jeunes, que ce soit même les cadres des directions, mélangent. Un manager n'est pas forcément un leader. Un leader, c'est une personne qui sait partager sa vision. Et par moment, vous avez dans des sociétés, vous laissez des tâches à un manager qui n'arrive pas à accomplir. Mais peut-être parce que ce n'est pas un leader. Donc pour devenir d'abord, parce qu'il y a le leadership, c'est le fait de savoir travailler d'abord en équipe. L'intégrité, ça fait partie. En fait, c'est beaucoup des notions qu'il faille intégrer auprès des jeunes pour qu'un jeune, demain, en devenant manager, qu'il puisse bien gérer l'entreprise qu'on lui confie. Mmh. Deuxièmement, et c'est pour cela que nous avons décidé d'organiser cette conférence. Il y aura des intervenants qui viendront.
Est-ce que vous irez également à Lubumbashi? Kisangani et dans les autres provinces.
Lubumbashi dans les universités, c'est-à-dire il y aura 4 jours de conférences et le dernier jour est réservé aux universités. Mmh. C'est-à-dire que les intervenants iront à les universités pour pousser les jeunes. Sa deuxième question, c'était de savoir est-ce qu'on peut concilier. Vous savez, je suis éditrice en même temps d'un magazine International Working Lady, qui est un magazine destiné à la femme active et dynamique. Comment la femme arrive à concilier le travail professionnel avec sa vie de famille ou même sa vie universitaire. Oui. Je pense que les deux vont ensemble parce que en même temps quand tu vas lorsque je prends mon exemple, raison pour laquelle d'ailleurs j'ai créé le magazine, c'est que au moment où j'étais à l'université, c'est au même moment que j'avais l'atelier de couture. Donc j'ai étudié, je faisais le droit à l'université et j'avais l'atelier de couture, ce qui a permis, ça a créé en moi cet esprit d'entrepreneur en tant que femme. Donc en même temps, oui, j'étudiais, j'avais mon diplôme, mais j'avais une activité, ce qui a fait que lorsque j'ai terminé, oui, je travaillais pour des sociétés.
Donc c'est possible d'étudier et d'avoir un petit job à côté.
Parce que le tout commence par l'éducation. tu ne peux pas négliger l'éducation en disant parce que je vais faire une affaire. L'éducation te permettra d'avoir une certaine méthodologie qui plus tard t'aideront à bien gérer ton entreprise.
Bien, merci. Alors François et Patricia ont visité les États-Unis du 14 au 30 juin dernier avec plus de 60 autres jeunes leaders africains afin de participer au sommet de l'innovation et au partenariat mentoring. Alors François, qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce que vous pouvez faire pour les autres jeunes? Comment pouvez-vous communiquer ces connaissances auprès des autres jeunes ici au pays?
Eh bien, j'ai beaucoup appris de ce voyage aux États-Unis. Et si je peux partager juste quelques notions, la première, c'est que l'échec d'aujourd'hui n'est pas la fin de mes rêves. Je peux échouer, mais cet échec devrait plutôt m'apprendre à mieux faire pour demain, pour que je ne retombe plus dans l'échec. Plusieurs se sont arrêtés parce qu'ils ont échoué un jour. J'aimerais dire à ceux qui ont essayé et qui ont échoué un jour.
Mais qu'est-ce que vous avez appris, par exemple, lors de votre voyage aux États-Unis? Et comment transmettre ces connaissances aux autres?
Oui, exactement. Je parlais de cette notion parce qu'elle est importante. J'ai appris comment les Américains savent ouvrir leur capital à d'autres structures, s'il le faut, pour pouvoir devenir plus grand. Parce que vous savez, le marché dans lequel nous évoluons est certainement très compétitif. Et par rapport à la compétitivité, il faut savoir s'associer à d'autres personnes. J'ai appris aussi, par rapport à mon secteur d'activité, principalement, c'est que l'innovation permet de rester actif sur le terrain, sur le long terme. Je suis dans le domaine des nouvelles technologies et dans ce domaine, il faudrait savoir innover dans le type de service que l'on fournit aux autres. Comment les partager avec les autres? C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Il y a des jeunes gens que nous encadrons à partir de certaines structures ONG et autres, à qui nous transmettons également les mêmes connaissances afin que eux aussi puissent construire des structures et réussir dans ce qu'ils font.
Merci François et merci à Patricia. Et nous rappelons que ce programme des jeunes leaders africains a été initié par le président Obama après sa visite au Ghana en 2009. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci à vous.
Merci, au revoir.
Et merci à tous ceux qui nous ont suivis.